Bonjour à tous. Je voudrais à mon tour vraiment réclamer la bénédiction du Seigneur sur vous. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il soit avec votre famille, qu'il vous accompagne dans tous les projets que vous avez, les uns et les autres. Cette bénédiction, elle est pour nous, personnellement, individuellement, mais on va aussi réclamer la bénédiction de Dieu sur nous en tant qu'Église, par rapport à tout ce que Daniel a pu partager. Je pense qu'on a besoin d'une bénédiction aussi collective, communautaire. Parce que la bénédiction pour nos vies, on y aspire, on la réclame, on la vit aussi. Mais que le Seigneur nous bénisse aussi en tant que corps, en tant que temple dont on est les pierres vivantes, afin que nous puissions entrer dans cette saison que le Seigneur a préparée pour nous et pour au-delà de nous, pour cette ville, pour notre entourage. Donc on va ensemble entrer dans cette nouvelle année. Et c'est vrai que quand on arrive dans cette période, il y a une année qui s'est terminée, il y a une année qui commence, c'est un peu l'heure des bilans et l'heure des bonnes résolutions aussi. Je ne sais pas ce que vous avez décidé pour cette année 2017, quels sont les choix que vous avez faits, quels sont les projets que vous avez. J'imagine que pour l'année 2016, il y a des bonnes choses que vous avez vécues et peut-être des choses qui sont moins bonnes, moins agréables, en 2016 plutôt, hein. Alors si vous avez vécu de bonnes choses, si le bilan est plutôt positif, comme on dit, vous avez de bonnes raisons pour remercier Dieu. Vous étiez malade, vous avez retrouvé la santé, votre santé s'est améliorée, vous avez connu le succès dans votre travail, le succès dans les études, une évolution professionnelle positive, intéressante. Certains d'entre vous avez peut-être pris l'engagement là de suivre le Seigneur en prenant le baptême. D'autres, vous avez eu des prises de conscience spirituelles. Vous avez fait un pas supplémentaire, ça vous a amené dans une nouvelle phase de votre vie spirituelle. Donc là, vous avez de bonnes raisons pour remercier, pour bénir le Seigneur. Et ça crée un élan, ça, pour 2017. Toutes ces bonnes choses que vous avez pu vivre en 2016, ça impulse pour cette année qui se profile et ça vous donne l'énergie, l'enthousiasme dont vous avez besoin pour vous projeter dans cette nouvelle année. Et puis peut-être que pour d'autres, le bilan, il est un peu plus mitigé, il est un peu plus en demi-teinte, parce que la maladie, au contraire, est venue, elle est apparue dans votre vie. Il y a eu une stagnation dans votre travail, ça n'a pas été forcément une année très épanouissante, ou une perte du travail même. Ça a pu être des conflits que vous avez pu connaître sur le plan professionnel, sur le plan familial, le deuil, ou une perte d'enthousiasme sur le plan spirituel. Alors là, on se sent plutôt affaibli, et ça peut être le cas, déçu, inquiet pour cette nouvelle année. Mais je pense vraiment que si vous êtes ici ce matin, c'est que vous avez envie de continuer. C'est que même si vous avez connu des choses qui ont été un peu difficiles à vivre, même si ça a pu vous atteindre dans votre morale, que ça amène quelques questionnements, vous êtes venu, vous avez affronté le froid, vous avez affronté le givre. Il y en a qui sont venus, qui ont fait des kilomètres, là, qui sont venus du Lion d'Angers, de Chantossé, vous imaginez ça un peu? Ils ont affronté là le givre et tout ça pour venir. Donc, vous avez envie de quelque chose si vous êtes là ce matin. C'est vital, les uns et les autres, d'avoir quelque chose qui nous pousse en avant. C'est vital d'avoir une vision pour notre vie, d'avoir un rêve qui guide notre vie. Tout ce qui est vivant a besoin d'être impulsé, a besoin d'être stimulé, a besoin d'être animé, a besoin d'être énergisé. Et ce qui nous pousse à aller de l'avant dans notre vie, c'est d'avoir un objectif à atteindre, c'est d'avoir une vision. Sans vision, notre vie reste inerte. Sans objectif à atteindre, sans choses qui sont devant nous, qui nous stimulent, il ne se passe rien. Ça veut dire qu'on reste là où on en est. Dans la Bible, Dieu a plusieurs fois parlé par des rêves. Les rêves ou les songes, ce sont des visions nocturnes que Dieu a envoyées pendant le sommeil de certaines personnes pour leur parler, pour leur donner une direction. Et le rêve, ça peut être l'image pour nous, en tant que croyants, de nos projets, de nos objectifs, des choses que nous avons à cœur à faire, de faire, des choses que nous rêvons d'accomplir. C'est ce que nous disons, c'est ce que nous employons dans notre langage. On peut avoir une vision pour notre travail. Voilà ce que je suis en train de vivre en ce moment, voilà quelle est ma position dans mon travail, voilà, mais j'ai un projet. Je veux amener mon entreprise plus loin, ou je veux amener le secteur dont j'ai la responsabilité dans mon travail plus loin. On peut avoir une vision pour notre famille. J'ai des enfants qui connaissent le Seigneur, mais j'en ai d'autres qui n'ont pas encore fait ce pas-là. Donc cette vision, c'est de pouvoir transmettre cette foi le mieux possible avoir une vision pour notre service ici dans cette église. Comment je peux faire pour m'améliorer, pour pouvoir concrétiser encore plus cet engagement dans l'église. Le rêve, c'est ce que nous désirons pour l'avenir. Souvent, c'est ce qu'on dit. On dit, je rêve de quelque chose. Je rêve de trouver l'amour. Je rêve de me marier. Je rêve d'être infirmière. C'est une illustration, ce n'est pas mon cas, on est bien d'accord. Je rêve de voyager. Je rêve de faire un voyage aux États-Unis. Ça c'est un rêve. Je rêve. Mon rêve s'est accompli, effectivement. Ça faisait des années que j'avais envie de ça. Je rêve de travailler dans une œuvre chrétienne. Je rêve que les compétences que j'ai pu acquérir puissent servir à l'œuvre du Seigneur, etc., etc. Le rêve, la vision, c'est ce qui nous permet de nous projeter dans l'avenir. C'est ce qui nous rend capable d'envisager des choses, qui nous rend capable d'envisager des études, un métier, un mariage, une famille, une maison, un projet, faire un voyage, créer une entreprise, établir une association. Alors c'est pour ça que ce matin, on va se pencher ensemble sur l'histoire d'un des rêveurs les plus connus de la Bible. Si je parle d'un rêveur dans la Bible, ça vous fait penser à qui ? À qui ? Bien joué. Par exemple, Joseph. Vous certainement le rêveur le plus connu de la Bible. Son histoire est racontée dans le livre de la Genèse à partir du chapitre 37 jusqu'à la fin du livre de la Genèse, jusqu'au chapitre 49. Et c'est un récit qui est susceptible de nous suggérer les joies qui peuvent nous permettre de nous projeter pour l'année qui arrive, pour l'année 2017. Et on va voir ensemble ce que nous suggère cette histoire. Tout d'abord, l'histoire de Joseph, premièrement, nous suggère de se projeter au lieu de s'arrêter. Joseph est né dans une famille de bergers, dans une famille d'éleveurs. Et dans l'Antiquité, ce n'était pas forcément la fonction la plus gratifiante. La principale préoccupation de Joseph, comme celle de ses frères, et c'était celle de son père et de son grand-père, c'est de garder les troupeaux. En l'occurrence, son père, c'était Jacob, et c'était de garder les troupeaux de son père. Mais il rêve qu'il va devenir un grand personnage, devant lesquels un jour les gens se prosterneront en signe de respect, en signe d'hommage. Il raconte ce rêve à ses frères et à son père, Jacob. C'est ce qu'on trouve dans le chapitre 37, verset 6. Il vient vers ses frères et il dit « Écoutez mon rêve, nous étions tous à la moisson en train de lier des gerbes de blé. Soudain, ma gerbe se dressa et resta debout, et toutes vos gerbes vinrent alors l'entourer et s'incliner devant elle. » Et le deuxième rêve qu'il fait, qu'il va raconter à ses frères et à son père, il le raconta également, « J'ai de nouveau rêvé, le soleil, la lune, donc ses parents, et 11 étoiles, ses frères, venaient s'incliner devant moi. » Il raconte ça à ses frères et à son père. Joseph dit à ses frères et à son père, « Voilà la vision que j'ai pour ma vie. » Et Joseph n'est pas animé par une ambition personnelle. Il n'est pas animé simplement par le désir d'être quelqu'un d'autre que ce qu'il est. Il n'est pas animé par un rêve de grandeur parce que c'est Dieu qui a placé cette vision en lui. C'est le projet que Dieu a pour Joseph. Ça signifiait que Dieu avait un plan dans lequel Joseph était appelé à entrer. Et Joseph, on sent quand on lit ces lignes qu'il manifeste beaucoup d'empressement à faire connaître son rêve à sa famille. Lorsqu'il a ce premier rêve, il va vers ses frères et il leur dit « Écoutez mon rêve ». Et lorsqu'il a le deuxième rêve, il retourne voir ses frères et son père, il dit « J'ai de nouveau rêvé ». La manière de Joseph d'interpeller sa famille, que ce soit ses frères ou son père, ça montre que quand il raconte ses rêves, il vibre. Il y a quelque chose en lui là, qui vibre au plus profond de lui-même. On sent que les rêves qu'il a eus, ça suscite un enthousiasme, une excitation, une envie, un espoir, une motivation. Voilà ce que je serai un jour. Et son empressement montre qu'il se projette parce qu'il a cette vision qu'il a reçue de la part de Dieu. Il ne se voit pas seulement comme le berger qu'il est, mais il se projette comme un roi. La capacité à nous projeter est largement déterminée par la vision que nous avons de notre propre vie. Si je suis un berger et que je pense que je ne peux être rien d'autre qu'un berger, ou si je ne veux être rien d'autre qu'un berger, je resterai un berger, même si Dieu veut m'élever au rang d'un roi. Si nous prenons en considération simplement ce que nous sommes dans l'instant présent, nous pouvons rester prisonniers de ce que nous sommes dans l'instant présent. On peut, par exemple, s'enfermer dans son statut de chômeur si on ne travaille pas. Et si on s'enferme dans ce statut, ça n'aide pas à se projeter, ça n'aide pas à nous voir exercer une activité professionnelle. Si j'accomplis une tâche professionnelle qui est inintéressante, dans laquelle je ne m'épanouis pas, et que je pense que c'est ce que je ferai toujours, que je suis bloqué, il y a de fortes chances, effectivement, que c'est ce que je ferai toujours. Si j'ai envie de faire des choses, si j'ai un projet, si j'ai quelque chose qui me motive, mais que je me fais une raison parce que je n'ai pas, les choses ne se mettent pas en place, en me disant « ce n'est qu'un rêve », il est très probable que ça restera un rêve, même si c'est Dieu qui a placé ce rêve dans notre cœur. Avoir une vision pour sa vie, ça donne la capacité de se projeter. Cette vision, ce rêve, c'est ce qui va nous empêcher de nous arrêter à ce qui ne peut être qu'une étape dans notre vie. Là, il y a quelque chose, je ne suis pas encore à la retraite, mais j'avance en âge. Et il y a quelque chose dont je m'aperçois, c'est que la vie, en réalité, c'est une succession d'étapes. Et quand je me retourne derrière moi, ma vie n'est pas encore aussi longue que celle de Daniel, mais je vois qu'il y a des étapes, je vois qu'il y a comme des sections dans mon existence. Et si j'étais resté à la première section de mon existence ou aux premières sections de mon existence, eh ben je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. C'est cette vision, c'est ce rêve qui nous conduit à renouveler notre confiance en Dieu, qui nous permet de donner les moyens d'avancer en concrétisant nos projets. Et c'est ce qui nous permet justement aussi de pouvoir dépasser les moments où c'est compliqué, où c'est beaucoup plus difficile. Et c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. L'histoire de Joseph, elle nous suggère d'accepter au lieu de se résigner. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que les choses ne se sont pas du tout passées comme Joseph les avait prévues. Il y avait un problème relationnel entre Joseph et ses frères. Les frères de Joseph ne l'aimaient pas parce que Joseph était le favori de leur père, Jacob. Et notamment dans le texte, il nous a raconté que Jacob avait manifester cette préférence en offrant à Joseph une magnifique tunique. Et ça a suscité la jalousie de ses frères et ça a contribué même à ce que ses frères le détestent encore plus. Joseph, nous dit le texte aussi, rapportait à son père tous les mauvais propos que ses frères tenaient lorsqu'ils étaient loin de la tente familiale, qui gardaient les troupeaux. Peut-être qu'il y a des moments, ils critiquaient, ils se moquaient, je ne sais pas quelle était la teneur de ces mauvais propos. Mais quand Joseph, il entendait ça, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait rapporter ça à son père. Alors voilà, si, je ne sais pas, Judas, il avait fait une mauvaise blague, il avait dit quelque chose qui n'était pas convenable, qui n'était pas correct, et bien le soir, quand il rentrait sous la tente, il y avait Jacob qui disait à Judas, « Viens ici, je sais que tu as eu des mauvais propos, parce que c'est Joseph qui me l'a dit. » Et pam ! Et ça, une fois que Judas, il avait reçu la mandale, il disait, « Ça, c'est à cause de Joseph, parce que c'est un mouchard, c'est un cafteur, on ne peut rien faire, on ne peut rien dire. » Et il y avait tout ça là qui avait été accumulé par les frères de Joseph. Et ce qui fait qu'un jour, les frères de Joseph, qui en ont ras-le-bol, qui en ont marre, ils se mettent d'accord pour se débarrasser de Joseph. Et Joseph vient là vers ses frères, comme il avait l'habitude de le faire. Et ses frères vont mettre la main sur lui, ils vont le jeter dans une citerne qui était sans eau. Et puis, alors qu'il y a une caravane de marchands qui passe, ils vont vendre leurs frères comme esclaves à ces marchands, qui vont à leur tour vendre Joseph comme esclave à un des officiers du roi d'Égypte, qui s'appelait Potiphar. Voilà Joseph complètement déraciné. Joseph, là, qui est obligé de quitter son pays. Il est tellement loin de l'accomplissement de son rêve. Il est tellement loin de la vision qu'il avait pour sa vie. Ses frères, au lieu de l'élever, ils vont l'abaisser plus bas que terre en le jetant au fond d'une citerne. Au lieu d'être honoré comme un roi, Joseph se retrouve méprisé comme un esclave. Il se retrouve dans une situation qui est aux antipodes, qui est complètement à l'opposé de ce qu'il pensait, de ce qu'il espérait, de ce qu'il avait projeté. Il avait toutes les raisons de sombrer dans le désespoir. Il avait toutes les raisons de sombrer dans la tristesse. Il aurait pu abandonner sa vision à ce moment-là. Mais il n'y a rien qui se passe comme je l'attendais. Il n'y a rien qui se passe comme toi tu me l'as dit, Dieu. Et il pouvait se dire, mais c'est fichu maintenant. Je suis au plus bas de l'échelle sociale. Je pensais être un roi et je suis devenu un esclave. Jamais je ne serai honoré. Jamais les gens ne se prosterneront devant moi. Ma vie n'aura jamais rien à voir avec celle que j'espérais, avec celle que j'attendais. Joseph aurait pu se résigner à la situation. Et il aurait pu servir Potiphar, mais sans entrain, sans aucune motivation. Il aurait pu se contenter en tant qu'esclave de faire le minimum, de faire le strict minimum. Je suis dans une situation que je n'ai pas désirée. Je voulais complètement autre chose. Alors, il n'y a aucune raison que je m'implique. Il n'y a aucune raison que je donne le meilleur de moi-même. Mais il fait tout le contraire. Joseph, même là où il est, il prend son service au sérieux et il donne le meilleur de lui-même. Il garde l'initiative sur sa vie. Et il accomplit tellement bien son service pour Potiphar que Potiphar va lui confier la gestion de tous ses biens, de toute sa maison et de tous ses champs, nous dit le texte. Comment est-ce qu'un homme déraciné, un homme qui avait toutes les raisons d'être déçu, un homme qui est devenu un esclave alors qu'il était le préféré dans sa famille, a pu trouver autant d'énergie à servir un maître étranger? C'est parce que Joseph, il est resté connecté avec Dieu. C'est ce que nous lisons dans le livre de la Genèse, au chapitre 39, verset 2, où il est dit « Le Seigneur était avec Joseph, si bien que tout lui réussissait. » Et la bénédiction de Dieu sur la vie de Joseph reste parce que Joseph reste en relation avec Dieu. Joseph va habiter la maison même de son maître égyptien. Au verset 5, « Dès lors, à cause de Joseph, le Seigneur fit prospérer les affaires de l'Égyptien, de Potiphar. Cette prospérité s'étendit à tous ses biens, dans sa maison comme dans ses champs. » La vision ne semble pas se réaliser, mais Dieu est toujours aux commandes. Et Dieu est aux commandes parce que Joseph garde la foi, il a toujours confiance en Dieu. C'est ce que nous pouvons vivre, hein. Nos projets ne semblent pas se réaliser. Il y a des moments où on s'était projeté, on avait pensé des choses et la vie ne tourne pas comme on l'avait pensé. Et on peut tomber dans la désillusion. Là, elle est violente, la désillusion pour Joseph. Et on peut vivre exactement des choses comme Joseph, des choses similaires. On se donne pour pouvoir passer ses examens et puis on échoue à nos examens. On va être obligé de se réorienter dans nos études. On ne fait pas le métier que l'on souhaitait. On n'obtient pas l'avancement que l'on désirait. Ou on perd son emploi. On n'obtient pas le prêt qu'on avait demandé. Alors que là, on avait le projet d'une maison ou de quelque chose comme ça. On connaît des dépenses imprévues qui vont entamer nos économies. Et ça, ce sont des expériences pénibles, douloureuses, qui sont susceptibles de nous déstabiliser et qui peuvent remettre en cause le plan qu'on avait pour notre vie. Et là, ce qu'il faut faire, là, ce qui est important quand on vit ces moments-là, quand on est dans cette phase de désillusion, c'est qu'il faut bien faire la différence entre se résigner et accepter. Se résigner, c'est quand les circonstances me contraignent à admettre la situation. Se résigner, c'est un verbe au passif. Et si ce sont les circonstances extérieures qui me poussent à admettre les choses, ça fait entendre une certaine passivité de ma part. Accepter, c'est quand je décide moi-même d'admettre les circonstances. Je fais preuve de réalisme, je vois quel est le contexte dans lequel je suis, qui n'est pas forcément celui que j'attendais, que je désirais, mais quand j'accepte, ma volonté reste en œuvre. Elle me permet de garder l'initiative malgré les circonstances. Et là, je suis actif. Je ne suis pas abattu, je ne suis pas dominé par les circonstances, mais je garde l'initiative sur mon existence, sur ma vie. Le moment présent dans lequel je suis n'est pas forcément définitif. C'est juste une étape, une fois encore. Alors, plutôt que de me morfondre dans mon bureau et de ne plus être productif, plutôt que d'accomplir le minimum, je reprends l'initiative et je vise l'efficacité, ou alors je cherche à trouver un autre poste dans mon entreprise ou dans une autre entreprise qui soit plus intéressant. Mais c'est différent de garder l'initiative et de continuer d'aller vers quelque chose, de rester animé par sa vision plutôt que de s'arrêter, plutôt que de se résigner. Si la vision pour notre vie n'est pas encore accomplie, Dieu va nous accompagner comme il a continué d'accompagner Joseph. Ce n'est pas parce que nous sentons les choses mal que Dieu n'est plus là. Souvent, c'est ce qui se passe. On se dit, mais Dieu, où est-ce que tu es? Je ne sens pas que tu es là. Mais ce n'est pas parce qu'on ne sent pas que Dieu n'est pas là. Dieu est là. Dieu veut nous bénir. Et si on garde l'initiative, il va nous bénir comme il a béni Joseph. Il nous bénira dans chaque étape que nous traversons jusqu'à l'accomplissement de la vision. Troisième suggestion qui est inspirée par l'histoire de Joseph, c'est résister au lieu de céder. Bonne proposition pour 2017. Tout se passe bien dans la maison de Potiphar, mais Joseph va se heurter à un hic, c'est la femme de Potiphar. Potiphar est séduite par Joseph, par l'apparence de Joseph, qui était un beau jeune homme. Il avait 17 ans à l'époque. Comme Madame Potiphar est la maîtresse de maison, elle ne prend pas de gants, elle y va direct, hein, elle sollicite Joseph, mais Joseph décline ses avances. Il explique à la dame qu'il respecte son maître et que ce serait faire quelque chose que Dieu n'approuverait pas. Donc il pense dans un premier temps qu'il a donné les explications qu'il fallait, mais Madame Potiphar, elle, ça ne l'arrête pas. Le respect pour son mari ou le respect que Joseph peut avoir pour Dieu, ça, elle ne s'embarrasse pas de ça parce que malgré ça, elle revient à la charge. Et le texte nous dit même que c'est chaque jour qu'elle revient vers Joseph pour l'inviter dans sa couche, pour l'inviter à avoir cette relation avec lui. Imaginez un peu, Joseph n'avait pas eu le parcours qu'il avait souhaité. Et je crois qu'il aurait pu se dire, mais là, c'est vraiment le bon moment pour s'offrir une petite compensation. C'est vraiment le moment de prendre un peu de plaisir, parce que les circonstances sont tellement malheureuses, je suis tellement au contraire de ce que je pensais. Donc là, j'ai quand même le droit de me lâcher un peu. J'ai quand même le droit de trouver un peu de bonheur, un peu de plaisir au sein de ce qui m'arrive. Il était loin de sa maison, il était loin de sa famille, il n'y avait personne qui était là pour l'empêcher de faire quelque chose qui aurait été contraire à l'éducation qu'il avait reçue, aux valeurs qui lui avaient été transmises. Il n'y avait personne pour le juger. Mais Joseph ne cède pas. Il prend un choix complètement contraire. Et ce qui le pousse à résister, ce n'est pas seulement le respect qu'il a pour Potiphar, mais c'est aussi son désir d'obéir à Dieu, parce qu'il connaît la volonté de Dieu. Et il sait que s'il fait ce choix-là, il ne sera pas dans la volonté de Dieu. Tout ce que Joseph avait imaginé s'est écroulé. Il n'y avait absolument rien là qui se concrétisait. Mais il ne s'est pas laissé influencer par les circonstances défavorables. Il est resté libre. Ça, c'est une des choses qui me frappe le plus et qui me parle le plus dans l'expérience de Joseph. C'est que Joseph reste un homme libre. Ce n'est pas quand tout va bien qu'on est poussé à faire le mal. C'est quand on est en situation de faiblesse. C'est quand on a moins de ressources. On est beaucoup plus réceptif à la tentation et à la suggestion de faire le mal quand les choses ne se déroulent pas comme on les avait prévues. C'est beaucoup plus simple dans ces moments-là. On est plus facilement disposé à penser que céder à la tentation va nous apporter un peu de plaisir, un peu de soulagement. Et le mensonge du péché, c'est de nous faire croire qu'on sera plus heureux quand on aura cédé à la tentation. Est-ce que je vais me montrer déloyal à l'égard de mes collègues ou à l'égard de mon patron, de mon supérieur, pour pouvoir atteindre mes propres objectifs professionnels? Est-ce que je vais arrêter de faire des efforts dans le cadre de mes relations avec mon mari, avec ma femme, ou pire? Est-ce que je vais laisser mon esprit se remplir de vulgarité, d'obscénité, de ce qui se passe à la télé ou de ce que je peux trouver à Internet, parce que ça va mal et puis j'ai besoin de penser à autre chose? En réalité, quand on fait des choix comme ça, on va à l'encontre de ce qui est bon pour nous. On va à l'encontre de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, on sait que c'est ce qui est bon pour nous. Contrairement à ce que le monde pense et à ce que les gens qui nous entourent pensent, on est libre quand on décide, pas quand on cède. On est libre quand on fait un choix, pas quand on subit la pression de son environnement. Si ce sont les circonstances qui nous dictent notre conduite, on n'est pas libre. Dans la société que nous avons aujourd'hui, c'est le discours contraire. Fais ce que tu as envie de faire, fais ce que ton cœur te pousse à faire. Et là, le réveillon, il y a bien des gens qui ont fait ce que leur cœur a poussé à faire, mais dans quel état ils sont ce matin? Ils ne sont pas libres. La liberté, c'est le choix. La liberté, c'est de m'en tenir à ce que j'ai décidé. Et en tant que chrétien, en tant que chrétienne, ce que nous avons décidé, ce que nous avons marqué par notre engagement, c'est d'obéir à Dieu. Et l'obéissance à Dieu, c'est la vraie liberté, c'est la suprême liberté. Et ce que nous suggère l'histoire de Joseph, à chacun d'entre nous ce matin, c'est de vivre cette liberté en nous enracinant dans la parole de Dieu et en ayant ce désir de l'appliquer dans chaque domaine de notre vie. Cette décision va nous permettre de surmonter la tentation. Et le dernier point que je voudrais voir avec vous, c'est que l'histoire de Joseph nous suggère de progresser au lieu de stagner. La femme de Potiphar accuse Joseph d'avoir tenté d'abuser d'elle, ce qui fait que Potiphar fait enfermer Joseph dans la prison du roi. Il était déjà esclave, mais le voilà maintenant prisonnier, Joseph. Et là, malgré cela, Joseph continue de faire confiance à Dieu, et Dieu continue de le bénir. Et Joseph se comporte tellement bien dans la prison que le chef de la prison lui confie la surveillance de tous les prisonniers. Il se passe la même chose dans la prison que ce qui s'est passé dans la maison de Potiphar. Joseph adopte la même attitude qu'avec Potiphar. Il garde l'initiative, il ne se laisse pas abattre et ça lui réussit. Parce qu'en acceptant la situation, cette nouvelle étape, il reprend l'initiative sur sa vie. Il se trouve dans un nouveau contexte, mais il continue d'apprendre à gérer, à remplir des responsabilités. Les responsabilités qui lui avaient été confiées par Potiphar, il va continuer de les exercer, mais dans un autre domaine, dans un autre contexte, qui n'est pas forcément plus agréable, peut-être même plus désagréable, mais il continue d'apprendre. Et alors qu'il est en prison, il va faire la rencontre de deux personnes. Il va faire la rencontre de l'échanson et du panetier du roi qui avait été jeté en prison, ils étaient en disgrâce. Et chacun d'entre eux va faire un rêve. Et ils ne comprennent pas le sens des rêves. Les Égyptiens accordaient énormément d'importance à l'interprétation des songes. Et ça les tracasse parce qu'ils sentent que ça annonce quelque chose pour eux. Joseph va se montrer sensible au tracas de l'échanson et du panetier. C'est ce que nous lisons dans le livre de la Genèse, au chapitre 40. C'est les versets 6 et 7. Le matin, quand Joseph vint les voir, il les trouva d'humeur sombre. Et il leur demanda: pourquoi avez-vous l'air si triste aujourd'hui? C'est intéressant ça parce qu'on voit que Joseph se soucie de ces deux hommes. Il se soucie des gens qu'il côtoie. Ce qui n'était pas tellement le cas auparavant. Il se soucie absolument pas de ses frères parce que pour pouvoir partager le rêve qu'il avait reçu avec eux, sans respect pour ses frères aînés, sans trop de respect non plus pour son père, on sent que... Il n'avait pas le souci de ce que les autres pouvaient vivre, de ce que les autres pouvaient ressentir. Ils étaient jaloux, ils étaient déjà montés contre lui. Et il arrive en disant, un jour, vous allez vous prosterner devant moi. Il n'a absolument aucun souci de ceux qui l'entourent. Mais là, Joseph réalise sans doute qu'il n'est pas le seul dont la vie ne s'est pas déroulée comme prévu. Et il compatit, il comprend. On voit que Joseph acquiert des dispositions intérieures qu'il n'avait pas avant. L'esclavage et la prison sont en train de préparer Joseph.